France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 13 avril. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, il y aura bien des élections régionales et départementales. En juin prochain, le chef de l'État a tranché après une ultime concertation. Analyse politique, reportage dès le début du journal après les autres titres, Agnès.
Quand un hôpital pour enfants crée un service de réanimation pour adultes atteints du Covid, reportage à l'hôpital Robert Debré. Le début du ramadan entre crise sanitaire et crise économique. Le Japon qui s'apprête à rejeter à la mer les centaines de milliers de mètres cubes d'eau qui ont servi à refroidir la centrale de Fukushima. La lutte en France contre les passoires thermiques en discussion à l'Assemblée. Et enfin, pandémie, mot en 8 lettres qui a plombé les fondus du Scrabble.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Après 8 mois de bataille boursière, judiciaire, médiatique acharnée, fin hier de la guerre entre Suez et Veolia, les deux fleurons ont conclu un accord qui crée un géant mondial de l'eau et du traitement des déchets. Oui, mais à quel prix? On reçoit Bertrand Camus, le directeur général du groupe Suez, qui était contre cette OPA aussi.
Et à 8h20, Léa, bientôt 100 jours pour Joe Biden à la Maison-Blanche, bilan d'étape avec l'économiste Daniel Cohen, le chef du bureau parisien du New York Times, Roger Cohen, et le chercheur en relations internationales, Benjamin Haddad. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils ont donc dit oui à 56%. Les maires consultés par le gouvernement se sont prononcés pour le maintien des élections régionales et départementales les 13 et 20 juin prochains. Les partis politiques avaient déjà dit oui, les associations d'élus avaient déjà dit oui. Mais en demandant aussi leur avis aux élus locaux, l'exécutif Simon Le Baron a voulu s'assurer du soutien le plus large possible après la polémique de l'an dernier.
Et cette fois, tout le monde est impliqué, sourit un proche d'Emmanuel Macron. Il n'était pas question pour le président de revivre le psychodrame des municipales. Le maintien du premier tour, sous la pression notamment de la droite, dont le chef de l'État n'a pas fini d'assumer la responsabilité. Un an plus tard, il a retenu la leçon. Les partis politiques, les associations d'élus et désormais les maires, tous sont embarqués dans la décision et le gouvernement en garde une trace écrite. On a assuré nos arrières, politiquement et juridiquement, avoue un conseiller. Et puis, il y a une question de cohérence. Les terrasses et certains lieux culturels pourraient commencer à rouvrir mi-mai, mais on ne pourrait pas voter un mois plus tard, difficile de défendre une telle position. Il n'empêche, les maires ont aussi fait part de leurs inquiétudes quant à l'organisation de 2 élections simultanées en pleine pandémie. Jean Castex veut les rassurer dans le discours qu'il prononcera cet après-midi à l'Assemblée. L'État vous apportera appui et assistance, leur dira le Premier ministre. Ce ne sera pas de trop, sachant qu'il faudra trouver 700 000 bénévoles pour faire tourner les bureaux de vote.
Les députés cet après-midi et les sénateurs demain vont donc se prononcer sur ce calendrier. Le protocole sanitaire sera renforcé, mais certains élus locaux redoutent une forte abstention. C'est le cas du maire sans étiquette de l'Union près de Toulouse. Stéphanie Glaisis l'a rencontré.
Le maire sans étiquette de l'Union assume de ne pas avoir une position majoritaire au sein des maires de Haute-Garonne. À titre personnel, ce maire souhaitait un report, Marc Perret.
Je m'interroge fortement sur la capacité de faire une campagne. Je m'interroge donc en conséquence sur la participation qu'il y aura. Et le troisième pilier, c'est effectivement les opérations électorales elles-mêmes, c'est-à-dire le fait d'avoir 2 élections en même temps. Ça veut dire 2 fois plus de bureaux, 2 fois plus d'assesseurs. Est-ce qu'on a la capacité de rassembler 2 fois plus de monde en période difficile, c'est-à-dire en période Covid? En moyenne, il nous faut 65 personnes pour fonctionner aisément, donc 65 5 x 2 égale 130. 130 personnes, 130 bénévoles.
Daniel, alerte septuagénaire, ira voter.
Oui, j'irai voter. Non, en prenant des précautions, le masque, le gel, la distanciation, j'irai.
Quant à Sébastien, il est plus prudent.
Si on met des règles sanitaires pour sécuriser la santé de tout le monde, c'est valable pour tout. Que ce soit pour le travail, pour les élections, pour les loisirs. Donc pourquoi il y aurait une exception pour les élections? Tant qu'on est en confinement et que la situation elle est pas encore résolue, je pense qu'il est urgent d'attendre.
Le Premier ministre défend désormais le maintien du scrutin en juin. Une fois le vote du Parlement acquis, les candidats vont donc accélérer une campagne régionale et départementale assez discrète. Toulouse, Stéphanie Glaisis, France Inter.
Et avec plus de 31 000 malades hospitalisés, dont près de 6 000 en réanimation, la situation ce matin reste très préoccupante. Tous les jours, les services d'urgence doivent chercher des lits pour prendre en charge les malades les plus gravement atteints. Alors à Paris, l'hôpital pour enfants Robert Debré a décidé d'ouvrir une unité pour accueillir des adultes. C'est un reportage de Daniel Messager.
Au milieu d'un couloir décoré de poissons et d'étoiles, c'est un hôpital pour enfants, il y a ce panneau, réanimation adulte Covid. Agnès Petit, directrice directrice de Robert Debré.
La réanimation adulte a ouvert mardi dernier, à hauteur d'à peu près 2 patients par jour pour arriver à pleine capacité, c'est-à-dire 8 lits.
8 lits, c'est beaucoup quand les autres hôpitaux du nord de Paris sont pleins. C'est l'unité d'hospitalisation post-urgence qui a laissé sa place à la tête de la réanimation, Stéphane Dauger.
Vous avez ici la chambre qui a été configurée comme un service de réanimation adulte d'une patiente qui est arrivée sur le week-end, qui est donc en assistance ventilatoire. On avait déjà le matériel qui avait été commandé lors de la première vague. Donc il a fallu installer les dispositifs d'accès veineux, par exemple, ou les dispositifs de ventilation.
Ce n'est pas les mêmes pour les adultes et les enfants.
Là, c'est plutôt 100 kilos ou plus.
Le personnel de soins pédiatriques a bénéficié d'une formation pour s'adapter aux adultes dans une salle de stimulation avec un mannequin d'entraînement, Marianne Schoen, cadre infirmier.
Il est encore accroché à son respirateur avec son tube pour retracer tous les soins techniques qui sont faits chez l'adulte. Par exemple, la façon d'attracher les sondes d'intubation. En pédiatrie, on n'attache pas que des cordons comme on le fait chez l'adulte.
Après, la culture de réanimation, c'est la même. Les difficultés, elles sont surtout liées aux comorbidités. On a des liens continus avec nos collègues de réanimation adulte.
Si la pression devait s'accentuer, Robert Debré aurait du mal à accueillir plus d'adultes, car contrairement à la première vague, les lits de réa pédiatrique sont occupés à 100%.
Daniel Messager, et la pandémie a atteint un point critique dans le monde, selon l'OMS, avec notamment plus d'un million de morts sur le continent européen. Et la question qui se pose aujourd'hui en France est celle des mesures à prendre pour les voyageurs en provenance du Brésil, où le variant brésilien fait des ravages. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Il est 7h06, Agnès, le début aujourd'hui d'un second ramadan sous confinement.
Durant ce mois de jeûne, les pratiquants doivent s'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil. La rupture du jeûne est en principe le moment de retrouvailles familiales et amicales. Mais en raison du couvre-feu à 19h, les habitudes sont chamboulées pour les 5 à 6 millions de musulmans français. Anne-Livia Tolin qui s'est rendue dans le 18e arrondissement de Paris.
Dattes, figues, cornes de gazelle, ici les étals des épiceries débordent et les cuisines tournent à plein régime.
Voilà, 2,80.
Youssef hésite entre deux pâtisseries. Il est étudiant et cette année, il n'a pas pu rentrer en Algérie.
C'est la première fois que je fais le ramadan tout seul. Du coup, je vais appeler ma famille pour voir qu'est-ce qu'on nous a préparé et tout, et voir les potes et mes amis là-bas, pour ne pas sentir que je suis tout seul ici. Mais c'est vraiment difficile là.
À l'interdiction de voyager s'ajoute le couvre-feu qui tombe avant l'heure de la dernière prière. Malika aurait préféré aller à la mosquée le soir comme d'habitude, mais elle va bien devoir s'adapter.
Quand on va prier à la maison, hein, on n'a pas le choix. Quand on va à la mosquée, c'est chaleureux, c'est tout un autre truc.
Pas de prière à plusieurs et pas de grand repas non plus. Sana est venue faire ses dernières courses, mais cette fois, elle achète en plus petite quantité.
Bah malheureusement, on va rester chez nous. On ne pourra pas aller voir la famille le soir, on ne pourra pas passer le ramadan en famille. Franchement, on espère vraiment que le l'Aïd se fasse en même temps que le déconfinement, qu'on puisse aller voir la famille, le fêter ensemble. On aimerait que ça se finisse mieux que ce qui va commencer.
En attendant l'Aïd, la fête de fin du ramadan, certains imams ont déjà prévu d'organiser des prières en ligne. La grande mosquée de Paris, par exemple, le fera tous les soirs après 21h.
Et direction le Japon à présent, qui s'apprête à déverser dans l'océan Pacifique des centaines de milliers de mètres cubes d'eau stockée depuis 10 ans dans des centaines de citernes géantes près de Fukushima. Cette eau a servi à refroidir les cœurs des réacteurs nucléaires entrés en fusion après le tsunami de mars 2011. La Chine a aussitôt réagi en parlant d'une décision irresponsable. Correspondance à Tokyo signée Karine Nishimura.
L'opération de rejet en mer de l'eau contaminée de la centrale de Fukushima ne débutera pas avant 2 ans et s'étalera sur des années. Mais il s'agit quand même de déverser dans l'océan 1 million de tonnes de liquide qui contient non seulement du tritium, mais aussi des résidus d'autres éléments radioactifs. Cette eau est de l'eau souterraine qui a été contaminée au contact des installations nucléaires, qui est pompée, retraitée et actuellement stockée dans un millier de citernes. Le gouvernement et la compagnie TEPCO arguent qu'il s'agit de la solution techniquement la plus réaliste, mais les écologistes et pêcheurs sont absolument contre, même si on leur promet des indemnités. Les habitants de Fukushima s'interrogent sur le sens d'une telle décision qui va nuire à l'image de leur région et du Japon à 100 jours des Jeux Olympiques. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
Et en France, Agnès, il est 7h09, l'Assemblée poursuit l'examen du projet de loi climat et résilience.
Avec le volet logement, secteur responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Les députés ont voté hier soir l'interdiction progressive à partir de 2025 de louer un logement très mal isolé. Mais les travaux de rénovation énergétique coûtent très cher. Et Célia Kiré, le gouvernement a refusé le reste à charge zéro.
Un logement sur 6 en France doit être rénové. Le gouvernement est prêt à aider les propriétaires à financer les travaux. Mais il y aura un reste à charge à payer. Or, sur ce point, à droite comme à gauche, des parlementaires sont d'accord. Il faut des aides supplémentaires. Vincent Descoeur est député Les Républicains du Cantal.
Je pense que pour les très modestes, il n'y aura pas de travaux s'il n'y a pas un reste à charge qui tend vers zéro. Et puis, il manque tous les autres. Une rénovation globale, c'est 50 000 euros. Un appartement, c'est 12 000 euros. Il faut que ce soit plus incitatif.
Et à la gauche de l'hémicycle, la députée socialiste de l'Orne, Chantal Jourdan, exprime les mêmes réserves.
Par rapport à ce reste à charge, 2 000 euros ou 1 000 euros pour un ménage, ça peut être inimaginable. C'est un frein pour rentrer dans un projet de rénovation.
Mais en face, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, défend les aides actuelles.
Je comprends l'idée de dire qu'il faut aller vers un reste à charge le plus faible possible, mais on a aussi vécu les offres à 1 euro qui, dans un certain nombre de cas, ont plutôt généré des surtravaux et des arnaques. Et par ailleurs, sur MaPrimeRénov', cette année maintenant que c'est ouvert à 100% des Français, on a encore 40% des bénéficiaires qui sont des ménages très modestes.
Pour le moment, le texte prévoit bien un système d'aide publique modulé pour rénover son logement, à condition de passer par un accompagnateur de la rénovation. Mais ce point délicat du financement peut encore évoluer au Sénat ou en deuxième lecture.
Ils doivent confirmer ce soir sur leur pelouse du Parc des Princes. Après leur victoire 3-2 la semaine dernière, les joueurs du PSG retrouvent ce soir les Allemands du Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Enfin, Nicolas, il y a, paraît-il, au Scrabble, un mot qui peut rapporter 482 points. À renfort, évidemment, de lettres compte double et de mots compte triple. Ce qui est sûr, c'est que ce mardi, journée mondiale de Scrabble, est assombrie par la pandémie. Clubs et tournois sont à l'arrêt depuis plusieurs mois au grand désespoir de ces licenciés de Châlons-en-Champagne, dans la Marne. Sophie Kostanzer a rencontré la présidente du club qui tente, coûte que coûte, de maintenir le lien.
La vie du club s'est arrêtée il y a plus d'un an ou presque.
Le dernier tournoi que j'avais fait, c'était début septembre, avec moitié de monde.
Et si la fédération de Scrabble met des parties en ligne tous les jours, Bernadette Millot ne joue pas. Non, elle, ce qui lui manque, c'est l'arbitrage.
On joue en dupliquette. Tout le monde a les mêmes lettres. Donc on rend des petits papiers. Et sur ces petits papiers, on peut les corriger, on peut voir si le joueur met un mot faux, il a zéro, si on met des zéros, on met des avertissements.
Bernadette est arbitre fédérale depuis plus de 20 ans. En ligne, ce n'est pas la même chose. Et puis l'informatique, ça ne marche pas toujours.
Oh, c'est ça qui marche pas, alors c'est pas possible.
On appelle un licencié du club, Richard, à qui ça manque aussi le Scrabble deux fois par semaine.
Bonjour Bernadette.
Oui, bonjour Richard, c'est Bernadette.
Qu'est-ce qui vous manque le plus?
C'est le fait de pouvoir se réunir, quoi. D'être en groupe et puis de jouer, quoi.
Vous êtes un pro du Scrabble, Richard?
Je suis pas du tout pro, mais j'y joue tous les jours, quoi. Donc là, je suis confiné chez moi, je joue avec ma femme, mais j'aimerais bien jouer en club.
Ne vous y trompez pas, on est bien dans le niveau expert avec Bernadette et Richard.
Tu joues quand même avec du Plitop?
Je joue avec du Plitop, oui, bien sûr.
Écoute, moi là j'ai un problème.
Et si l'informatique fait des siennes pour le Scrabble, il reste le bon vieux Rummikube.
Reportage de Sophie Kostanzer de France Bleu Champagne.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes à Gibraltar, vacciné, libéré du Covid.